Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être venus. Aujourd'hui, pour nous, c'est un jour très spécial. C'est le jour de la langue portugaise. Et voilà pourquoi nous avons choisi ce jour pour cette conversation avec Lídia Jorge. Lídia Jorge, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment besoin d'être présenté. Elle a déjà une longue carrière et même ici en France, elle a plusieurs œuvres déjà publiées. Et si vous me permettez, j'aimerais commencer notre conversation en parlant de son dernier roman qui vient d'être publié en France. Il s'appelle « Les Mémorables ». Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le lire, le cœur de l'histoire, c'est la révolution des œillets. Tu commences avec une soirée chez un ancien ambassadeur des États-Unis au Portugal qui lance un défi à son filleul, qui est un journaliste d'une chaîne américaine, pour faire un documentaire sur la révolution de 1974. Ce journaliste demande alors à une journaliste portugaise, Ana Machado, de faire un reportage sur la révolution. Et le point de départ, c'est une photo que cette journaliste trouve dans le bureau de son père, qui a été prise pendant la période révolutionnaire et dont figurent les principaux intervenants dans la révolution. Alors, elle commence à faire une série d'interviews et ces interviews donnent le mosaïque de la révolution. À la fin, c'est ce que nous avons, c'est une idée lumineuse, une idée presque innocente de ce qui a été la révolution des œillets. Ce qui contraste avec la situation des gens qui ont fait la révolution une trentaine d'années après. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi faire maintenant un livre sur la révolution des œillets?
Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci de l'accueil de la librairie Mola et de vous, Madame Isabelle Barade et Madame la Consul. Pourquoi écrire un livre sur la révolution des œillets 40 ans après? Il faut aussi demander la même chose aux écrivains de France qui, à ce moment-là, sont en train d'écrire sur ce qui s'est passé pendant la décennie de 60 et 70. Ça veut dire que parfois, on doit revenir, on doit faire quelques pas derrière, en derrière, pour essayer de comprendre ce qui est devant nous. Et vraiment, dans mon cas, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que ce livre a été dicté par une espèce d'urgence de comprendre comment on a fait une courbe ascendante et d'un moment à l'autre, une courbe descendante. Et en écrivant ce livre, j'ai compris quels étaient les piliers de la société qui n'étaient pas suffisamment forts pour supporter le développement d'un pays qui était presque du Moyen-Âge 40 ans avant, de quelques points de vue. Il y avait un écrivain très important au Portugal, José Cardoso Pires, qui disait qui a écrit dans un livre que le Portugal était un pays du Moyen-Âge dont les avions passaient au ciel. Et la sœur de Beauvoir, Hélène Beauvoir, qui a vécu pendant quelques temps au Portugal, pendant les années 50, elle a écrit des Portugais ce beau pays médiéval. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après la Révolution, il y a eu un effort extraordinaire. Et de quelques points de vue, le Portugal s'est développé, ce pays que vous connaissez peut-être tous, a fait un effort extrême, un effort, on a pris la vitesse pour être quelqu'un, pour être un pays comme les autres, comme les pays des démocraties de l'Europe. d'Europe du centre, du centre démocratique. Pourtant, du point de vue de l'éducation, de la science, de toutes les demeures, de tout le développement, et l'influence des femmes, tout ça a évolué d'une façon absolument magnifique, je trouve. Et d'un moment à l'autre, devant cette crise, d'un moment à l'autre, nous sommes devant un miroir et nous n'aimons pas voir ce que nous voyons. C'est la présidente de FMI qui a dit que quand la marée est descendante, excusez mon français, n'est pas toujours très affiné, quand la marée est descendante, les nus montrent la nudité. Et elle parlait des pays du sud de l'Europe, donc le Portugal aussi. Et c'est ce qui s'est passé. Nous sommes devant notre nudité. Et ça, pour une génération qui a fait un grand effort et qui a pensé que les choses iraient complètement... que nous pourrions même ajouter quelque chose à l'Europe, parce que nous avons cette idée. Nous avons quelque chose à donner, nous ne sommes pas seulement un pays qui reçoit. Nous avons quelque chose à ajouter, pas seulement du passé, mais aujourd'hui même. Alors, nous sommes troublés devant ce miroir. Depuis 3 ans, surtout 3 ans, mais 4 ans, nous sommes troublés. Et évidemment que pendant tout ce... Voilà que c'est une réponse longue à une petite question. Mais il faut peut-être vous expliquer pourquoi je ne pensais pas écrire un livre comme celui-ci. Je ne pensais pas. Et d'un moment à l'autre, j'ai été poussée parce que mes enfants, les jeunes de l'âge de mes enfants, ils détestent parler de la Révolution. Ils nous ont entendu parler pendant toute notre vie. Alors nous sommes des vieillards pour eux. Nous sommes des gens comme les 68 ans. Je dis, mais mon Dieu, des gens qu'ils sont vieux, qu'ils pensent d'une façon extravagante, les pauvres. Et ils sourient de ça. Pourtant, devant cette crise, la génération de mes enfants, ils n'ont pas été capables au Portugal d'inventer une chanson pour protester. Ils n'ont pas créé une mythologie. Jusqu'à présent, ils sont dépourvus des mythes, des forces qui agglomèrent les idéaux. Ils s'en vont partout et ils ne savent pas comment créer une espèce de mouvement entre eux, un mouvement de génération. Ils seront peut-être la génération des dispersés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant quelques mois, quand les jeunes voulaient protester, ils protestaient avec la chanson ancienne, la très, très ancienne, la chanson des œillets, la chanson de Grandola Villa Morena. Et ça a commencé à... tout le monde était ému quand ça arrivait. Et d'un moment à l'autre, j'ai eu l'idée de revenir sur mes pas et de voir pourquoi on chantait de nouveau cette chanson. Pourquoi certains mouvements occupy autour du monde chantaient cette chanson. Cette chanson, pas sans les paroles, parce qu'on ne sait pas les paroles, mais la musique. Pourquoi on commence dans les mouvements occupy par les pas de Grandola? C'est pas sans paroles. C'est pas qui semble un groupe humain qui vient, les bottes fortes, les bottes ferrées, je crois que l'on dit. Alors, et on écoute ces bottes qui viennent. Et ça secoue le cœur des gens. Alors, pourquoi ça? Pourquoi? Alors, j'ai écrit un livre pour montrer, ah, et surtout, les jeunes pensent que le problème, c'est que la révolution a été quelque chose de mauvais pour le Portugal. Ont interprété au contraire. Et ils disent, peut-être, si on était comme avant, on serait mieux. Il y a même des écrivains qui disent, sans révolution ou avec elle, ce serait égal. Alors, je ne crois pas, et j'ai eu l'idée d'aller d'une façon pas réaliste, mais d'une façon, en essayant d'ajouter les miettes d'une mythologie, essayant de créer une mythologie aussi, autour de deux mouvements. Le mouvement absolument magnifique qui a duré pendant environ 24 heures. Un jour absolument merveilleux. C'est le jour 25 avril. Et c'est quelque chose que, comme on dit, un moment lumineux de l'histoire. Tout le monde ici présent, nous sommes tous sous cette idée que l'histoire de Walter Benjamin, l'idée que l'histoire, l'ange de l'histoire, c'est cet ange de Paul Klee qui ouvre, qui tourne vers le passé, ouvre la bouche et qui est horrorisé de voir que l'histoire est un amoncellement de catastrophes. Mais on sait que Walter Benjamin a écrit ça au milieu du XXe siècle, quand le siècle était ravagé par tout ce problème historique que nous connaissons. Mais quand même, il y a toujours des mouvements et des jours, des instants lumineux dans l'histoire, comme dans nos vies. Tous, nous avons des jours lumineux. Alors, cela pour le Portugal a été un jour lumineux, le 25 avril. Ça a arrêté la nuit. Environ les 10 heures de la nuit, on a compris que le problème irait être très difficile, jusqu'à un moment. Jusqu'à aujourd'hui, on voit que, comme un œuf, on voit la nuit du 25 avril avait déjà toutes les promesses bonnes et toutes les promesses mauvaises. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'idée de montrer aux jeunes comment 500 jeunes, 40 ans avant, quand ils n'étaient pas encore nés, ont été capables d'être absolument bénévoles, absolument généreux. Tout eux, ils pourraient revenir, être morts, être tués cette nuit-là. Pourtant, ils ont donné une espèce de cadeau aux générations futures. Alors, j'ai eu l'idée d'écrire un livre pour que les jeunes comprennent ce qui s'est passé et aient honneur de son pays. Parce qu'à ce moment, le Portugal est déshonoré par les autres pays, notamment les autres pays de l'Europe, notamment les pays, je crois que pas la France, mais peut-être quelques Français le pensent aussi, mais surtout les pays nordiques pensent très mal des Portugais. Et il y a des Portugais qui ont honte de dire qu'ils le sont, partout, qui ont honte. Et j'ai eu l'idée d'écrire un livre pour qu'ils n'aient pas la honte d'être Portugais. C'est vrai qu'aujourd'hui, au fur et à mesure que l'histoire marche, qu'il y a des gens d'histoire qui étudient ce qui s'est passé, tout le monde comprend que ce que ces jeunes gens ont fait ce jour-là a été une révolution, la première de 60 et quelques-unes d'autres, la première pacifique, la première de la chute de toutes les des dictatures de l'Occident, de l'Europe et de l'Est de l'Europe. Mais pas seulement elle. En Amérique du Sud, aux Philippines, un peu partout, on a eu l'idée que c'était un modèle. Et aujourd'hui même, les révolutions arabes, qui malheureusement sont maintenant sur un chemin très extravagant, mais quand ça a commencé, sous l'idée qu'était le printemps arabe, les personnes, les plus importants interprètes de ces révolutions, ils ont dit, nous voulons faire comme les Portugais ont fait. Alors, j'ai voulu raconter ce jour par la bouche des hommes qui sont là encore, les vivants et les morts. Alors, j'ai parlé directement, comment dire, dans le texte, évidemment, avec l'ombre, le fantôme de ceux qui sont morts, surtout un, et qui est impeccable, qui est quelqu'un qui n'a pas de, comment dire, qui n'a pas de tâche dans sa vie. Et j'ai eu l'idée de faire une espèce de voyage de trois jeunes qui ne savent pratiquement rien, sauf une, mais elle ne veut pas parler. C'est à cause de ça qu'elle cherche les autres qui ne connaissent absolument rien, et les mettre devant les fêtes, pour qu'ils se prennent d'amour pour ces fêtes. Et de l'autre côté, pour montrer pourquoi le sentisse, pourquoi la démocratie a échoué en quelques parties, pas toutes. Et la partie peut-être la plus importante chez nous, qui a échoué, a été la justice. Et c'est à cause de ça que c'est une justice dans un pays démocratique. La justice continue, je crois, aujourd'hui encore, à avoir des piliers fascistes. Du point de vue de la justice, elle est, comme quelqu'un d'important dans la justice portugaise dit, faible avec les forts et forte avec les faibles. Et j'ai inventé une colonne militaire qui est sortie l'aube du 25 avril, 40 ans avant, et tandis que les autres colonnes arrivent à leur objectif et détruisent l'ancien ordre, il y a encore une colonne qui continue à rôder à travers les rues et les avenues de Lisbonne pendant les nuits. Et les gens de Lisbonne écoutent pendant la nuit le mouvement des rues. Des roues de ces chars de combat. Chars de combat. Alors, les soldats ont déjà la barbe blanche. Quelques-uns sont morts et vont là, dedans, morts. Ils n'ont plus d'essence dans les engins des chars. Pourtant, ils continuent à rôder. Et quelle est cette colonne ? C'est la colonne qui devrait frapper, cogner à la porte des tribunaux. C'est cette colonne qui n'a pas encore trouvé l'objectif. Alors, pour moi, ça a été très important de parler de cette façon. Je sais que ce n'est pas une façon réaliste, qu'il y a peut-être des personnes qui sont un peu enivrées avec ça. Mais pourquoi cette histoire qui n'est plus une histoire réelle? Parce que je crois qu'il y a un moment où l'histoire ne fait que simplifier les choses, ne fait que plus que simplifier ce qui s'est passé, et qu'il faut, qu'il soit nécessaire de dresser des histoires de fantaisie autour de faits réels, mais donner une fable autour de ces événements pour que ça passe aux autres générations. Évidemment que je ne me compare pas à Shakespeare, mais c'est un bon exemple pour dire que c'est comme ça. C'est en créant des histoires autour de l'histoire réelle que Shakespeare parle de l'histoire d'Angleterre et un peu aussi de l'Europe de l'époque. Alors, ce que les écrivains sont en train de faire aujourd'hui, c'est exactement ça. Et je crois que ce n'est pas moi, du point de vue du Portugal, mais ici, je viens de lire deux livres français, et ce sont deux livres qui essaient de femmes écrivains françaises, Lydie Salvert et Geneviève Brisac. Elles ont écrit, au même temps que j'étais en train d'écrire ce livre, elles étaient aussi en train d'écrire quelque chose autour de ces mouvements. Quand la générosité des gens est capable de changer le monde, d'essayer de créer l'espoir. Je crois que c'est pour ça que j'ai écrit ce livre.
Pour moi, une des personnages les plus frappantes, c'est la veuve de Charlie VIII. C'est quelqu'un qui a peur de dire la vérité, c'est quelqu'un qui ne revendique rien, qui ne demande rien, et que chaque fois qu'il faut dire quelque chose de gênant, elle ne veut pas parler publiquement. Vous trouvez que c'est ça une métaphore pour le comportement des Portugais aujourd'hui? Des gens, oui, qui n'osent pas dire la vérité en face?
Oui, oui, je trouve. Je trouve que c'est ça ce qui se passe. Je trouve que c'est ça. Les pays, les peuples ont une espèce de mémoire archaïque et la mémoire des difficultés, de la pauvreté, de plus que la pauvreté, la peur de vivre et de dire, parce que si on parle, on a la punition. C'est ce qui s'est passé pendant presque 50 ans au Portugal, ou plus que 50 ans. C'est l'histoire du Portugal, comme l'histoire de la Roumanie et l'histoire d'autres pays, sont des histoires très longues où les dictatures changent les comportements des gens. Je crois que les hommes, nous sommes pareils un peu partout. Nous sommes pareils, sauf l'histoire. L'histoire change. C'est l'histoire qui nous fait différents. Au fond, nous sommes dans les sentiments primaires, nous sommes hommes et femmes. Mais l'histoire est différente. Et pour le Portugal, je trouve ça, c'est très clair que c'est la peur de perdre le peu que l'on a. Même quand on est un médecin ou un avocat ou une personne de la classe moyenne, on a l'idée que le père ne savait pas lire. Même un jeune qui est un scientiste à Harvard et qui est capable d'avoir un grand curriculum, quand même, il sait que son père peut-être sait lire, mais son grand-père était analphabète. Et ça a un poids sur le comportement des gens. Ça a un poids, ça prend du poids. Et aujourd'hui, je pense et je suis très émue avec ce qui se passe au Portugal. Au même temps, je respecte et je comprends ce qui se passe, mais en même temps, ça est triste parce que je vois que la démocratie n'a pas eu le temps suffisant pour faire perdre la peur de parler. Ces jeunes qui chantaient la Grandola partout, 2 ans avant, sont muets. L'un d'eux peut-être ici à Bordeaux, l'autre est à Berlin, l'autre est à Londres, l'autre est à Édimbourg, l'autre est au Brésil. Tout est parti. Et ceux qui ne sont pas partis ont peur. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Alors, c'est quelque chose qui me touche. Pourtant, il faut dire que cette scène, et on n'a pas beaucoup parlé, mais voilà que vous êtes sensible à la partie que je trouve le cœur du cœur de la fable que j'ai écrite. Et c'est dans tout cela, c'est le début du livre. C'est ce moment que vous avez compris comme des pages qui sont les pages peut-être les fondamentales de ce livre. C'est vrai, c'est la veuve de quelqu'un qui avait, qui portait le nom de Charlie Witt le jour de la Révolution. Parce qu'ils avaient, toutes les colonnes avaient un nom selon ce schéma de transmission. Et Charlie Witt signifiait, c'est le centre, commence Charlie, c'est le centre, et 8, c'était la colonne 8. Alors, Charlie Witt est le grand, correspond à Charlie Witt dans le livre, mais dans la vie, il est Salgueiromaia, le plus important de tout eux. Cet homme qui, pendant 3 fois, il a dit, il s'est offert à la mort pendant ce jour-là pour sauver la révolution. C'est quelqu'un qui mérite pas seulement, comment dire, le salut des Portugais, mérite le salut des gens européens, si les gens européens s'intéressaient à l'histoire du Portugal. C'est une histoire merveilleuse, celle-là. Et heureusement qu'on voit qu'il y a plusieurs étrangers qui vont à Lisbonne et qui veulent mettre les pieds où Salgueiromaia a mis les pieds. C'est absolument incroyable de voir que cet homme, malheureusement, il est mort très tôt. Il est malheureusement pour lui et pour sa famille. Peut-être heureusement pour nous, les Portugais, parce que ça est un peu brutal de le dire, mais l'âge et le temps peut-être pourraient lui mettre une petite tache dans sa vie. Et comme ça, c'est vrai qu'il n'a pas une tache dans sa vie. On peut dire malheureusement qu'il est mort, mais en même temps, il a laissé une vie exemplaire, absolument exemplaire pour nous. Il vit d'une façon incroyable. L'histoire de sa femme et pourquoi je l'ai... j'ai été inspirée d'un fait réel, de quelques faits réels. Il faut dire que la veuve existe et je lui ai dit, je vais écrire un texte où il y a des pages dont vous êtes l'inspiratrice de ce texte. Et elle était contente, mais elle ne savait pas ce que j'irais faire. Évidemment qu'elle n'est pas contente de l'image que je lui ai donnée. Elle n'est pas contente. Et elle était même un peu... Mais je l'ai vue comme ça. Elle a peur. Parce que qu'est-ce qu'elle maintenant elle peut faire? Elle peut aider à maintenir l'image de son mari. Elle veut que tous les ponts du Portugal aient le nom de son mari. Toutes les places, toutes les rues, les écoles. Alors elle ne veut pas toucher aux forces politique. Alors elle parle à bouche fermée et elle parle à haute voix, là, de voix, n'est-ce pas? Alors cette métaphore que j'ai créée, les micros dans sa blouse, quand elle veut parler de son mari, elle dit « Il est mort par une maladie naturelle ». Alors elle a le micro ouvert. Mais quand elle veut dire et parler du chagrin, alors elle met la main sur le micro. Parce que le Portugal a fait une chose intéressante. Vous avez eu une révolution. Et quelle révolution? La révolution des révolutions a été faite en France. Alors vous connaissez les courbes de toutes les utopies ici, partout ici en France. Alors vous comprenez aussi que nous avons eu des courbes dans notre révolution. Alors une courbe, c'est que on a poussé hors on n'a pas promu. Je crois que je suis en train de dire on ne l'a pas promu. On l'a envoyé très longtemps. Plus que ça, il, qui est le symbole de la liberté, il a été fait le chef des prisonniers au Portugal, le chef des prisonniers militaires. Alors c'est là ironie complète, n'est-ce pas? Cet homme a souffert. Alors, il est mort de chagrin, oui. Il est mort de chagrin. Pourtant, sa femme, évidemment, il y a une maladie concrète, mais il est mort de chagrin, n'est-ce pas? Alors, sa femme dit à haute voix, il est mort par une maladie naturelle, à voix basse, avec la main sur le micro. Il est mort de chagrin. Et il faut vous dire que je sais aussi, ces jeunes, et moi alors avec eux, où ils sont inventés, alors c'est, comment dire, c'est ma volonté de le voir comme ça. Je sais des choses que la veuve ne sait pas, parce que j'ai étudié un peu l'histoire. Alors j'ai dans ma main une copie de... signée par 11 magistrats qui donnaient la permission que l'État portugais donne une subvention à cet homme parce qu'il était un héros de la Révolution. Parce qu'il a demandé, il a dit, moi je mérite. Il savait qu'il était malade. Je mérite ça pour mes enfants, pour ma femme. Il faut vous dire que ce document est jusqu'à présent mis dans un tiroir de l'État. Alors, il est caché. Il est caché, ce document. Personne ne connaît pas. Je connais presque tous les magistrats, mais ils sont muets. Ils ne disent rien. Eux qui ont dit, il a le droit parce qu'il a été un héros. Alors, voilà pourquoi... j'ai voulu écrire ce livre pour parler aux jeunes de quelque chose qui est sous la grande table, parce que tous les pays le font. Tous les pays ont la table, sur la table, les fleurs, les carafes, de l'eau, sur la table. Sous la table, tous les pays cachent, parfois parmi nos jambes, l'ordure de la vie, n'est-ce pas? Alors, il faut que les jeunes portugais connaissent les deux parties, connaissent pourquoi, à ce moment-là, on a tellement peu de fleurs sur nos tables. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il y avait une révolution, c'est au contraire. C'est parce qu'il y a eu une révolution dont la démocratie conséquente a été malmenée. Les gens ont volé. Une élite financière a volé le Portugal. C'est vrai, un peu partout, je sais. Et aujourd'hui, tout le schéma économique va dans cette direction. Mais malheureusement, on ne méritait pas ça au Portugal. On ne méritait pas ça. Alors, c'est à cause de ça que j'ai écrit peut-être le livre que j'ai écrit le plus vite, le plus ému, le plus politique. Pas partidaire, il y a quelques, surtout un, des partis politiques qui sont un peu fâchés avec moi à cause de ce livre. Mais je ne l'ai écrit pour les partis, j'ai écrit du point de vue politique, oui, mais du point de vue politique sans frein idéologique. Ce n'est pas un livre idéologique, c'est un livre politique qui a une idéologie, mais c'est une idéologie transversale. Ce n'est pas une idéologie qui est, une couleur politique spécifique. J'ai écrit pour les jeunes et heureusement que je vois que les jeunes, et pas seulement les jeunes du Portugal, comprennent ce que j'ai voulu dire avec ce livre.
Un des piliers, moi, à mon avis, de la société portugaise est encore la famille. Surtout maintenant, dans les temps de crise, on voit ça très nettement. Mais dans votre livre, vous avez choisi justement une famille dysfonctionnelle où un père le silence. Il y a un père et une fille qui n'osent pas dire des choses l'un à l'autre. Pourquoi avoir choisi cet encadrement pour raconter cette histoire?
Il y a des situations quand on écrit un livre que ce n'est pas possible d'expliquer bien pourquoi. Pour moi, ça a été très important de... Je me semble que ce que j'ai pensé, c'est que ce regard, c'était normal au Portugal. La famille se rejoindre pour sauver la première partie de la vie, primaire de la vie. Alors, la famille se rejoint pour gagner de l'argent, pour se protéger, pour partager les aliments, l'argent, pour faire étudier les enfants, tout ça. Pourtant, les rapports ne sont pas faciles. Et les rapports, à mon point de vue, ne sont pas faciles parce qu'il y a un grand décalage entre d'où on vient et la jeunesse, qui a un nouveau monde devant. Évidemment que toutes les jeunesses, la jeunesse n'a jamais, heureusement, de dos. La jeunesse a seulement la poitrine, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que les gens se sauvent, n'est-ce pas? Parce qu'autrement, on mourirait sous le poids du passé. Mais évidemment que les jeunes ont seulement le futur. Ils n'ont pas peur du futur, ils croient au futur en général. Ils se pensent libres et modernes. Toujours, les jeunes pensent « je suis le devant de la société, je suis moderne ». Alors, si ton père ne te laisse pas sortir, si ton père ne te laisse pas faire des bêtises ou être très ambitieux, alors ton papa, ton père est un vieux, ton père est du passé, etc. Le Portugal, mais ici en France, où la différence culturelle entre générations, maintenant, n'est pas très, très profonde. L'enfant a un dialogue normal avec l'enfant ou le fils, un dialogue avec le même vocabulaire du père. Mais non, pour nous, il faut comprendre qu'il y a un décalage. Évidemment que ce personnage, vous irez me dire, puisque... vous avez été touché par ça, qu'ils sont du même niveau culturel, mais ils ne sont pas du même niveau technologique, ni du même niveau de l'expérience du monde. Tandis que la jeune fille est une jeune fille, c'est une journaliste qui est allée à Irak et qui a vu le changement qui s'est passé en 2004, quand les Américains disaient « Notre pétrole est sous vos sables ». Vous vous souvenez de cette époque-là? Il y a 10 ans quelque chose, n'est-ce pas? C'est un moment très intriguant. C'est le moment où la France était contre, heureusement. Était contre cette invasion. La France, le monde, le Libé, était toujours, et même le Figaro, était toujours contre, il y avait toujours des voix contre cette invasion de l'Irak. Il y avait toujours, ici, il y avait un mouvement contre cette invasion. Peut-être parce que nous sommes des sociétés vieilles, nous avons compris, et je sais combien les Américains ont souri beaucoup du premier ministre de l'époque qui s'appelait, cet monsieur grand et gentil, Villepin. Quand Villepin est allé à Washington, et il y avait un professeur universitaire portugais qui disait « Mais quelle honte, un Européen qui ne comprend rien du monde !» J'ai dit « Mais vous êtes sûr qu'il ne comprend pas ?»« Ah oui, bien sûr !» C'était le point de vue de l'Amérique. Mais Villepin avait raison. On était en train d'ouvrir une plaie, on ne sait pas comment soulager cette plaie. On ne sait pas comment le faire. Alors, cette jeune fille, elle est allée là, cette Ana Maria Machado, elle est allée là. Elle a compris le mal du monde. Elle a compris, elle s'est aperçue ce qui se passait. Et son père, non, son père était au Portugal, accablé par les choses portugaises, par la petite histoire portugaise, et il ne comprenait pas les jeunes. Il avait été un grand journaliste, et il avait même compris quelque chose qui allait se passer. Pourtant, technologiquement, il était quelqu'un du passé. Il n'était pas capable de faire dans sa vie la révolution technologique. Alors, il ne voulait pas écrire dans l'ordinateur. Il ne voulait pas laisser sa grande table où les écrivains à l'ancienne pouvaient parler à haute voix pour les autres plus jeunes. Il a perdu sa table de travail. Il devait partager, comme nous aujourd'hui, tout le monde sait, n'est-ce pas, que nous partageons tout, nous n'avons plus notre place. Nous n'avons plus notre espace, nous sommes des nomades partout, n'est-ce pas, des nomades dans le travail. Nous n'avons, rien ne nous appartient pas, presque rien. Alors, il n'a pas été capable de subir cette transformation. Et j'ai voulu qu'il soit une espèce de symbole de ces hommes des années 70 qui étaient complètement fiers de ce qu'ils avaient fait et qui avaient la confiance complète dans la révolution qu'ils avaient mis en marche et qu'ils pensaient que ça suffit que je m'assoie ici. Alors, il est l'exemple de la personne qui a perdu la route parce qu'il a cru, il a pensé que la vie avait stabilité. La vie n'a jamais la stabilité. La vie est toujours mouvable, est toujours en train de est toujours dynamique et pas toujours dans le bon sens. Alors, il n'a pas compris que pour avoir la paix, qu'elle doit être acquise comme si on était toujours avant une guerre. C'est comme ça qu'on évite les guerres. C'est toujours en pensant que nous sommes au bord d'une guerre et que nous sommes capables de l'éviter. C'est dans ces deux mouvements qu'on évite la catastrophe. En imaginant que c'est possible qu'elle vienne, c'est possible que je l'évite. Alors je dois être surveillant. Je ne dois pas me laisser endormir. Et les mémorables sont endormis. Il est l'exemple des mémorables. À un moment donné, Anne-Marie dit, mon père, devant son père, il dit, tu as tous les défauts des autres mémorables. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage, et c'est presque à la fin, quand elle comprend qu'il feint chaque matin qu'il va travailler. Pourtant, il va avec sa serviette et dans sa voiture se mettre sous les platanes pour se cacher de sa fille. Et il rentre à la nuit comme s'il était à son journal. Il n'était pas là plus. Alors, il feint toujours qu'il travaille. Il ne travaille pas. Et quand elle découvre ça, elle a pitié, elle souffre une grande pitié devant, elle souffre beaucoup devant lui. Et elle dit, elle pense, il a désisté de tout. Alors, tous les défauts des autres mémorables qui n'ont pas été suffisamment surveillants, alors mon père est l'amoncellement de tous ces défauts. Alors, c'est la fille devant son père. Et il faut dire que le titre « Les mémorables » ne signifie pas les exemplaires et même ce n'est pas les héros. Non, ce n'est pas ça. C'est ceux qui ont fait quelque chose qui doit être dans notre mémoire pour lire la vie. Alors, ce n'est pas les héros. C'est ceux dont la vie est exemplaire, du point de vue de que nous donne un exemple pour le bon et pour le mal. Alors, voyez comment ces vies sont passées, ce qu'ils ont fait de bien, ce qu'ils n'ont pas fait de bien. Alors, c'est le sens. Alors, dans ce sens, lui, il est immémorable à cause de ça. Sa vie est mémorable. Elle, dans un écran, on comprend le moment où il a échoué sa vie, n'est-ce pas?
Bon, je voulais juste demander un complément. Tout a été dit, les réponses, j'avais plein de questions, mais bon, Madame la Consule est là. Je voulais juste rappeler, j'ai lu un très beau texte et je pense que tout le discours de Lydia et toute sa présentation et son enthousiasme et sa tristesse en même temps, et c'est toute la contradiction, me rappelle un très beau texte aussi que j'aimerais partager, où Lydia se souvient de sa premier jour d'école. Donc, c'est un très beau texte et qui dit justement, en voulant ramasser son stylo, elle se rend compte que ses camarades n'ont pas de chaussures. Donc, elle arrive après à la maison parce qu'elle veut justement trouver les chaussures pour ses camarades et elle s'aperçoit que c'est une tâche impossible, une impossibilité. De la tâche. Plus tard, Lydia, en se souvenant de ça, elle parle de ce moment-là comme un symbole pour son écriture. Elle s'est dit, bon, l'écriture, les mots, ça va être les moyens de chausser toutes ces gens. Et je retrouve un peu dans le discours maintenant, justement, les mémorables. Voilà, un appel un peu aux jeunes, à la mémoire, au devoir de mémoire, et tout en disant que bon, ces chaussures, ces mots peuvent parfois faire des bottes de 7 lieues. Et voilà l'écriture de Lydia et l'élégance, la subtilité, l'engagement. Et je voulais juste demander si ce roman est une reconstruction du 25 avril 1974.
Merci beaucoup de évoquer ce texte. C'est ma mère qui m'a dit, quand j'ai rentré à la maison, j'ai dit qu'il n'avait pas de souliers et je voulais des souliers pour eux. Et ma mère dit, mais tu n'iras jamais les chausser tous. C'est quelque chose qui m'a frappé beaucoup, n'est-ce pas? Et voilà que maintenant que nous sommes devant le monde, aujourd'hui tout est globalisé et on voit qu'il y a continue encore à avoir des gens sans souliers, n'est-ce pas? L'histoire continue. C'est bon. Mais alors, si j'ai voulu parler de 25 avril, si faire la reconstruction, oui, j'ai voulu faire. Et je suis heureuse de ça parce que j'ai lu quelques livres et puisque il y a chez moi il y a quelqu'un qui est très lié au 25 avril, alors on a presque une bibliothèque 25 avril et j'ai commencé par dire je ne veux pas faire une faute sur ce jour-là et jusqu'à un moment c'est très agréable parce que les historiens disent qu'il n'y a pas une faute, mais il y a de la fantaisie, n'est-ce pas? Si j'ai reconstruit, oui, j'ai essayé de faire ça. J'ai essayé de montrer, parce que, par exemple, les gens de mon âge, aujourd'hui au Portugal, ont oublié ce qui s'est passé. Se souviennent de leurs histoires particulières, mais du mouvement et du mouvement, l'interprétation, mais il y a déjà des confusions. Par exemple, le matin du 25 avril, le moment où il y a le moment crucial où il y avait du sang ou pas du sang, il y a trois moments différents, avec trois personnes différentes, trois hommes très importants, mais dont un est giflé, l'autre se doit à la mort et qui a une grenade dans la poche. Enfin, ce sont trois histoires différentes, avec trois interprètes différentes. Même les gens de mon âge, à ce moment, confondent les choses et pensent que c'est seulement un personnage. Il y a des gens de mon âge qui étaient là, mais qui ne savent pas ce qui s'est passé de l'autre côté de la rue. Alors, il y a, comment dire, la mémoire, notre mémoire, elle avale la situation. On a besoin de choisir quelques points et oublier le reste. Alors, j'ai eu l'idée de ne pas raconter l'histoire. Par exemple, il y a un moment où la colonne de Salgueiro Maia monte Rua Augusta vers Rossio, où il y aura une femme qui donne pour la première fois les œillets. Qui ne pouvait pas faire une fête, alors elle avait des œillets, elle a vu ses soldats, elle a commencé à donner des œillets, c'est comme ça. Mais en avançant, évidemment, je ne sais pas ce que Salgueiro Maia pensait, mais toutes les photos montrent qu'il marche avec l'horloge de Rua Augusta, le grand horloge était là, n'est-ce pas, était dans le dos de cette colonne. Alors, pour moi, c'est très clair que cette horloge et son cœur sont seulement un. Alors, j'ai voulu que... C'est une fantaisie, mais pour moi, c'est très important de parler de ce moment. Au lieu de parler des gens qui étaient à côté et qui disaient des choses, pour moi, il était important de parler de dans le personnage. Alors, puisque rien n'était encore acquis, on ne savait pas, ils ne savaient pas si la révolution réussirait ou non, alors pour moi, faire le battement du cœur et le battement de l'horloge comme a été très important pour moi. Et c'est comme ça que j'ai écrit ce passage. Alors, vous pouvez imaginer, les heures sont parfaites, chronologiquement, tout ça correspond. Pourtant, le point de vue, j'ai choisi toujours du dedans des personnages, du dedans. J'ai essayé de créer un événement national pour le Portugal, mais du point de vue de l'âme humaine, de l'âme qui est plus proche, c'est toujours comme ça, c'est ce que la fiction essaie de faire, c'est de créer quelque chose qui soit plus grande que le temps d'où elle provient et qui puisse atteindre des gens je ne peux pas dire de toutes les époques, mais des plus amples époques possibles.
Bon, malheureusement, notre temps est fini. Je vous remercie à vous et à Madame Lydia-Georges.
Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.